Bonsoir à toutes et à tous, vous êtes sur Radio Galère au 88.4 et vous écoutez l'émission de la Forêt des Possibles en partenariat avec Écoforum. Nous sommes le mercredi 3 avril et comme tous les mercredis, nous sommes en direct de 19h à 20h. L'émission sera rediffusée demain à 9h, jeudi 4 avril. Et pour nous réécouter ensuite, ça sera sur le site de Radio Galère, rubrique Écoforum et très bientôt sur Spotify. Chères auditrices, chers auditeurs, quel que soit l'endroit d'où vous nous écoutez, dans votre voiture, chez vous, en replay, probablement que, comme nous, vous vous posez des questions sur l'état du monde et que cela vous préoccupe. Vous observez les effets du dérèglement climatique, vous observez les tensions sociales. Cela vous préoccupe, mais il y a aussi les tracas du quotidien, le travail, le temps qu'on peut accorder à ses proches, à ses passions. Alors comment concilier tout cela? Comment concilier la fin du monde et la fin du mois? Que faire quand tout cela nous dépasse? Et surtout, comment trouver sa juste place dans un monde incertain? Chaque mercredi, sur les ondes de Radio Galère, notre émission tente de répondre à ces vastes questions. Chaque mercredi, la Forêt des Possibles donne la parole aux acteurs et actrices des transitions écologiques et solidaires de Marseille et sa région. Nos invités aussi se sont posés beaucoup de questions. Leur parcours ressemble d'ailleurs probablement au vôtre. Ils et elles se sont engagés, ont créé leurs projets, répondent aux problématiques du territoire. Surtout, leurs projets se complètent les uns les autres. Seuls, ils seraient comme des arbres isolés. Ensemble, ils forment une grande forêt qui chaque jour enracine, pousse, donne du fruit et montre la voie d'une société résiliente, créative et solidaire. Chères auditrices, chers auditeurs, l'émission de la Forêt des Possibles est une grande invitation. Nous pensons que vous aussi, vous avez votre juste place à prendre, du moi au nous et du nous au tout, dans une société qui respecte les besoins humains et les ressources de la planète. Semaine après semaine, nos invités témoignent qu'il est possible de bâtir collectivement le monde de demain. Je m'appelle Claire Maillot, ce soir en studio, accompagnée de Marin Moffray et de Mathieu Cheminal en régie.
Claire.
On vous entend.
Bonsoir à toutes et à tous.
On vous entend de loin, mais on vous entend. Et ce soir, nous avons le plaisir de recevoir le réseau Entourage en compagnie de Guillaume, David et Paul.
Salut, bonsoir Radio Galère.
Bonjour Radio Galère.
Sans oublier, bien sûr, notre public survolté qui assiste à l'enregistrement.
Ouais. C'est super. Team.
C'est super d'avoir un public ce soir, ça me met en joie. Alors, donc ce soir, nous allons parler avec l'association Entourage qui lutte contre la précarité et l'exclusion sociale. Faut savoir qu'Entourage, donc, c'est une association nationale avec une antenne marseillaise, mais c'est aussi une appli et un réseau social qui se dit comme vraiment social. Donc, nous allons creuser tout ça avec nos invités ce soir. Mais pour commencer, nous aimons savoir un peu qui nous avons autour de la table ce soir. Donc, je vais vous distribuer la parole pour que vous présentiez vos parcours, qu'est-ce qui a fait qu'aujourd'hui vous êtes là dans le studio de Radio Galère pour nous parler d'Entourage, quels sont les questionnements, les déclics que vous avez pu vivre. Guillaume, est-ce que tu présentes tu commences par te présenter.
Bonsoir, du coup enchanté, Guillaume Sénéchal, donc je suis responsable des communautés sur Marseille, on va dire responsable un peu de l'antenne marseillaise d'Entourage. Comment je suis arrivé là, en essayant de pas tout raconter, parce que parfois j'ai tendance à revenir vraiment très très loin et rentrer dans le détail, de manière plutôt classique, à la fin d'études de droit que j'ai faites, j'ai décidé de ne pas poursuivre et de partir un petit peu voyager. C'est là où j'ai commencé à avoir un petit engagement lors d'un voyage en Amérique du Sud et à, entre guillemets, proposer de l'aide bénévole. Et ensuite, en revenant, j'ai poursuivi des études et ensuite j'ai cofondé, plus ou moins participé à la création d'une structure artistique et culturelle qui s'appelle maintenant Maison Gutenberg, qui s'appelait Taverne Gutenberg, qui s'est montée sur l'occupation d'un ancien immeuble d'habitation dans le quartier de la Guillotière à Lyon qu'on a reconverti en résidence artistique et en lieu culturel. Donc ça, c'est un petit peu pour l'histoire plus ou moins professionnelle. C'est un projet qui s'est déroulé jusqu'en 2022. à côté de ça, j'ai toujours, dans des temps forts comme dans des temps faibles, un petit peu de mon parcours, essayé d'avoir un engagement auprès des gens. Et dans nos projets culturels, on avait cette vocation d'avoir une consonante un petit peu sociale. Donc, tout au long de ces 10-20 années, on va dire de ma vingtaine à ma trentaine, aujourd'hui j'en ai 34, j'ai été bénévole dans beaucoup de structures assez différentes, dans des grosses structures comme les Restos du Cœur ou la Croix-Rouge, un petit peu à Athènes, en Amérique du Sud ou dans d'autres pays, sur différentes thématiques. Et à la fin de ce projet, qui a été une énorme partie de ma vie, un projet culturel et artistique très très intense, très très humain, très très riche. J'ai pris un peu de temps pour moi et j'ai eu la volonté de voir comment on allait non pas mettre par exemple la culture au service d'une action sociale, mais comment on allait pouvoir mettre une action sociale au service de quelque chose, comment ça pouvait devenir finalement l'outil central dans mon engagement et dans mon projet professionnel. J'ai eu envie de travailler beaucoup sur les problématiques en lien avec les réfugiés, notamment. C'est là-dessus que je travaillais quand j'étais à Athènes. C'est ce qui m'a poussé aussi à venir à Marseille. C'était le foisonnement de structures qui œuvrent sur ces thématiques. J'ai fait des allers-retours, j'ai failli partir au Liban, ça ne s'est pas fait à cause de ce qui s'est passé à Israël. J'ai eu la possibilité de partir en Irak, ça ne s'est pas fait pour d'autres raisons. Bref, finalement, je me suis retrouvé à Marseille. J'ai commencé à faire du bénévolat pour pas mal de structures, notamment Ramina, avec laquelle je travaille encore aujourd'hui dans une autre radio, chez Radio Grenouille. Et finalement, Entourage est un petit peu passé par là. Et c'est comme ça que je me suis posé, installé, et que j'ai débuté un petit peu pour de vrai mon aventure marseillaise.
Ok, donc tu as été au bon endroit, au bon moment, où Entourage cherchait à se renouveler et voilà.
Exactement, j'ai saisi la chance qui m'a été offerte.
Je remarque quand même une constante parmi nos invités, c'est le voyage en Amérique du Sud. Marin peut témoigner, c'est vraiment quelque chose qui revient énormément chez nos invités.
C'est un début, on va dire que c'est un début, et puis après il y en a eu beaucoup d'autres dans plein de pays, et avec à chaque fois des thématiques un petit peu différentes.
Mmh. On voit que tu as bien voyagé. Qui d'autre pour se présenter ? Paul, David ?
Ben moi, c'est David. Je suis content d'être là. Je vais pouvoir dire... voilà. Ben moi, je suis plus en fait... moi, mon parcours, moi, c'est que... Bon, moi, je suis quelqu'un qui a connu la rue de 2007 à 2016, à peu près dans ces eaux-là. Ouais. J'ai connu la rue et j'ai fréquenté les structures où c'est qu'il y avait les foyers, tout ce qui était foyer, tout ce qui était les personnes en précarité, les personnes en précarité. Et puis et j'ai voulu me lancer dans la solidarité. Je suis dans la solidarité depuis 2000. Ça fait 7 ans à peu près. Ça fait 7 ans que je fais ça et je m'occupe des personnes sans domicile. Okay. Je m'occupe des personnes sans domicile fixe et puis et les personnes aussi chez eux qui sont en précarité, où c'est qu'ils sont seuls, où c'est qu'il n'y a personne qui les rende visite. Mais moi, mon domaine, en fait, je suis rattaché à deux associations. Mm-hmm. Moi, je suis rattaché à Entourage. C'est parce que je suis attaché à Entourage pour le même travail, puisqu'il s'occupe aussi des personnes qui sont en précarité. Mmh. Et puis l'autre, c'est la cloche sud. Mmh. Ouais, je suis ambassadeur de la cloche sud. Et c'est beaucoup notre domaine. C'est vrai que ça atteint beaucoup tout ce qui est personnes qui ont une vie difficile dans la rue. Comme moi, hein, j'ai fait 4 saisons dans la rue, j'ai dormi pendant 4 saisons dehors. Donc je comprends leur parcours. Mmh. Comme là, il y a eu, en fait, ce qui m'a un peu. Je voulais parler de ça parce que ce qui m'a un peu. En colère un petit peu, c'est qu'il y a une période hivernale. Mmh. Toutes les personnes vont dans les foyers en période hivernale. Et quand la période hivernale est finie, on les met dehors, en fait. Vous voyez, c'est un peu... C'est un truc qui... J'espère qu'un jour, on remédiera à ça. J'aimerais bien qu'il y ait des structures pour tout ça, pour ces personnes. Il y en a, hein. Il y en a des structures, mais pas assez encore. On a besoin de partenaires, on a besoin de pas mal de choses, en fait. Je veux dire, partenaires, même peut-être de nous, même peu. Mais moi, c'est vrai que... point de vue entourage aussi, je parle d'entourage aussi parce que là je connaissais déjà un petit peu depuis 2000, je sais plus de quelle, depuis quelle année, c'était 2000, ça fait 3 ans, 2000. Là je suis parti en 2000, toute l'année 2023, je crois que c'est depuis 2021, après le Covid. C'est après le Covid, et puis écoutez, j'ai vu ce qui pesait aussi, et ça m'a vraiment intéressé aussi. C'est un peu la même, en fait ça se rapproche, c'est un peu les mêmes problèmes qu'on rencontre dans la vie actuelle. Parce que là, ce qui m'inquiète, c'est parce que toutes les personnes qui sont retrouvées dehors à leur tour, parce que dans les foyers, c'est vrai que généralement, c'est en plus, avant c'était 500, il y a eu le Covid, ça a été limité à 300 maintenant. Donc tous les restes des personnes qui étaient là, ils se retrouvent, ils dorment dehors. Ouais. C'est vraiment un truc, ils n'ont pas de toit, ils sont sans domicile. Il n'y a pas que ça, il y a des personnes qui travaillent quand même, des personnes en CD et tout.
Et si on recentre un petit peu sur toi, ton parcours, parce que c'est ça qui nous intéresse. Moi, j'aimerais savoir depuis combien de temps Est-ce que tu es Marseillais d'origine?
Oui,
depuis...
je suis né à Marseille.
Tu as toujours vécu à Marseille?
J'ai grandi dans les quartiers nord de Marseille. Et je suis né là-bas, j'ai vécu toute ma vie pratiquement. Ouais. Donc je connais Marseille comme ma poche.
Ouais, tu vas avoir une très bonne connaissance du territoire, voilà, effectivement. Je connais les territoires. Et de toutes les spécificités, ouais.
Voilà, exactement. Et c'est vrai que moi, mon parcours, j'avais une vie de famille comme tout le monde. Hein. J'avais une vie de famille, j'avais des enfants, j'ai une femme. Bon, j'ai divorcé en 2007. Hein. Je le cache pas, hein. J'ai divorcé en 2007.
Tu dis ce que tu veux.
Et comment dire ça, je me suis retrouvé un peu... j'ai un peu perdu les pédales un petit peu. Je me suis, comme j'avais des enfants et tout, c'est quelque chose qui me pousse beaucoup. Et puis c'est vrai que je me suis retrouvé à la rue et du coup j'ai dû me débrouiller pour survivre. C'est comme ça qu'on dit, hein, dans la rue. J'ai dû me débrouiller, mais j'ai dormi un peu partout. Hein. J'ai dormi dans les parkings, dans les métros, j'ai beaucoup galéré.
Est-ce qu'aujourd'hui, tu as un toit sur ta tête?
Oui, maintenant, ouais, aujourd'hui, ouais, je m'en suis sorti au bout
de... Je suis ravie de l'entendre.
Ouais. Au bout d'un temps, j'ai ramé. Mais j'ai réussi à sortir la tête de l'eau. Et puis après, bon, maintenant, j'ai mon travail aussi en dehors de ça. Après, c'est vraiment quelque chose... je suis un peu aussi, par rapport aux associations et tout. Bon, c'est vrai que j'ai un peu aidé aussi les Restos du Cœur, un peu, à donner à manger aux personnes sans domicile et tout. Déjeuner et tout, mais c'est vrai que comme nous on fait beaucoup, moi c'est vrai que j'ai vécu tout ce que j'ai vécu, le froid, le chaud, la nuit dehors pendant qu'il faisait froid, tout ce qu'on découvre dehors, tout ce qu'on trouve dehors sur les quatre saisons, je l'ai vécu. Et c'est quelque chose, bon, ça a été compliqué de s'en sortir, c'était dur. Mais
j'imagine que ça marque un parcours de vie.
Voilà, ça marque vraiment un gros parcours. Et un beau jour, on m'a tendu la main, une association qui m'a tendu la main. Et puis, je m'en suis sorti.
Et aujourd'hui, tu cherches donc à rendre l'appareil.
Voilà, c'est ça. C'est en fait, ce qu'on m'a fait à moi, je cherche à le refaire aux autres. Et je le ferai. Ça, je l'ai fait. Ça pourra durer des éternités, s'il le faut.
On va creuser le sujet plus tard dans l'émission.
Bien sûr.
Et je vais donner la parole à Paul, qui est notre troisième invité autour de cette table ce soir. Moi, j'ai cru comprendre que tu avais un rôle assez historique au sein de l'association à Marseille. Présente-nous ton parcours, Paul, s'il te plaît.
Vaste question, difficile à répondre. Moi, je suis donc Paul. Je suis Toulonnais d'origine et je suis papa de deux petits garçons aujourd'hui. Et comment j'en suis arrivé là? Je ne sais pas si y a un sens, un destin, mais en tout cas, moi, j'ai toujours. Je suis quelqu'un qui aime bien aller vers les gens. Globalement, j'aime bien discuter. J'aime bien m'intéresser aux gens. J'aime bien passer des moments sympas avec des gens aussi que je connais pas. Globalement, c'est quelque chose qui a toujours été naturellement présent chez moi. Et dans la vie, en plus d'être Toulonnais et papa de deux enfants, donc moi, j'ai un travail également. Je travaille dans le digital. Je suis consultant, donc j'aide des entreprises et des organisations publiques sur des projets digitaux. À côté de ça, un peu comme le disait tout à l'heure...
Guillaume.
Pardon Guillaume, comme le disait Guillaume, j'ai toujours été investi à la hauteur de mes capacités, disons, dans des activités bénévoles pour des associations diverses. Voilà, je dis ça avec beaucoup d'humilité parce qu'on aimerait toujours faire plus. Quand je pouvais, je le faisais. Comme beaucoup, j'ai traversé le Covid qui a été un moment de grand questionnement, d'enfermement, d'isolation, on peut le dire. Cette période a été aussi le moment pour moi où mon premier enfant est né. Ça a été des vrais bouleversements très très profonds d'être coupé justement de tous ces humains, hein, sauf heureusement ma femme avec qui j'étais installé, et d'être coupé voilà, de tous ces humains, cette richesse de l'humain, mais et aussi un bouleversement de découvrir un nouveau rôle qui était de s'occuper d'une vie et d'un enfant. Et c'est à ce moment-là où voilà, je me suis pas mal creusé la tête sur le boulot que je faisais à l'époque et sur voilà, le sens de pas mal de choses. Et à ce moment-là, il y a eu deux grandes décisions qui sont arrivées dans ma vie. La première, c'était de quitter Paris où j'étais à ce moment-là, de retourner dans le sud de là où je venais. Je viens de Toulon, mais j'ai fait mon lycée à Marseille. Donc, j'ai choisi de revenir à Marseille où j'avais des fortes attaches familiales et amicales. La deuxième, c'était de commencer à véritablement chercher du sens dans mon travail. Et en fait, en faisant ça, j'ai parlé avec ma femme, qui éducatrice spécialisée. Elle était travailleuse sociale à ce moment-là dans une association qui s'appelle Au Captif de la Libération. Elle travaillait auprès notamment des femmes prostituées à Saint-Denis, à Paris. Mais c'est une association qui travaille aussi beaucoup avec les personnes qui sont dans la rue, qui connaissent la galère. Voilà. Et c'est en fait, au moment où je me posais des questions, je faisais part un peu de mes idées aussi sur comment trouver des solutions. Voilà, on est toujours tourné très solution. Hein. Elle m'a parlé d'entourage à ce moment-là, elle m'a dit tu devrais regarder, on travaille avec eux parfois. Donc j'ai regardé le site et je suis allé sur le site voir comment ils parlaient de tout ça. Je sais pas si ça vous est déjà arrivé d'ouvrir un site ou d'ouvrir un bouquin ou voilà ou juste de voir un film et vous dire waouh, c'est ça. Et en fait, chaque chose que je lisais, je m'y reconnaissais quoi. Je me disais waouh, c'est la manière dont je l'aurais fait, c'est la manière dont je l'aurais dit, c'est la manière dont je pense que ça a le plus de sens. Voilà, ça a été hyper hyper intéressant. Et donc moi, ce que j'ai fait, c'est que je leur ai écrit, j'ai vu qu'ils étaient à Paris et dans pas mal de villes, mais ils n'étaient pas à Marseille. Et comme je descendais à Marseille, je leur ai écrit. J'aurais écrit un mail, j'aurais dit j'adore ce que vous faites, je descends à Marseille, si vous avez quelqu'un, vous avez besoin de quelqu'un là-bas pour vous aider sur quoi que ce soit, n'hésitez pas. Je m'attendais pas forcément à une réponse. Quand on fait ce genre de mail, c'est toujours un peu voilà, sur le moment. Et en fait, on m'a répondu. Voilà, c'est comme ça qu'il y a une belle histoire qui a commencé avec Entourage. Là, on est pas mal de mecs autour de la table, mais j'ai travaillé beaucoup avec des filles sur cette première partie d'Entourage. Je voudrais les citer, il y avait Caroline, Clémence, Marine, Violine. C'est avec elles que j'ai commencé à vraiment vivre ce qu'est Entourage. Bon, je pense qu'on va en parler ensuite, mais voilà ce qui m'a amené un peu ici aujourd'hui.
C'est une belle histoire, effectivement. On voit que tu as eu un coup de cœur. L'approche d'Entourage t'est apparue comme une évidence, un email envoyé, une bouteille à la mer. C'est comme ça que ça a commencé, entre autres, j'imagine.
Complètement.
Ouais, c'est une belle histoire. Alors, attaquons le vif du sujet. Entourage, qu'est-ce que c'est ? Guillaume, en tant que salarié de Entourage Marseille, peut-être que tu peux nous présenter comment fonctionne l'association nationale, en local, comment sont constituées les équipes.
Alors, Entourage, pardon. Donc Entourage, c'est une association qui a été créée en 2014 à Paris qui s'est créée sur, on va dire de manière historiquement et dans son ADN, sur plusieurs réalités et plusieurs constats. Il y en a un, c'est celui que l'isolement est finalement le point de départ de toutes sortes de pauvreté. Et le point de départ de toutes sortes de belles histoires. Et du coup, l'idée, elle a été de créer un outil qui permettrait de créer des conditions pour créer du lien social entre des personnes en précarité, exclues notamment socialement, donc SDF sans abri, mais on peut voir ça de manière plus large, et tout citoyen qui souhaite s'engager d'une manière ou d'une autre. On reparlera après des chiffres et de l'importance du lien social comme vraiment quelque chose de très très important dans l'intégration de toute personne aujourd'hui. Et donc pour lutter contre ça et pour emmener tout citoyen à s'engager, l'idée a été de créer une application. C'est un peu historiquement d'où on vient, donc cette application qui permettrait notamment de regrouper différentes choses aujourd'hui.
Question sur cette application. Ouais. On est d'accord qu'elle est à destination des citoyens, citoyennes qui possèdent un smartphone. Est-ce que c'est aussi à destination des personnes qui sont en précarité, qui vivent dans la rue ? Est-ce qu'elles sont utilisatrices de smartphones ?
Alors aujourd'hui, on va dire que l'application et le smartphone, ça a été un point d'entrée. Il y a d'autres outils, il y a d'autres choses qui existent. Simplement, c'est là où on se situe, mais pas que. Donc cette application, elle est gratuite, elle est ouverte à tout le monde. N'importe qui peut se créer un profil pour proposer de l'aide, en demander, être mise en relation avec des structures qui peuvent s'occuper de besoins particuliers. Rencontrer et discuter avec des gens et aussi participer à des événements, on reviendra là-dessus plus tard. Évidemment que c'est nécessaire, mais c'est non exhaustif. Il y a aussi tout un travail, l'objectif d'entourage, il va être, via ce que nous on propose, mais pas uniquement, de réussir à sensibiliser chaque personne à l'importance de la création du lien social en montrant à quel point c'est facile et c'est vrai. On va parler, on pourra échanger là-dessus. Vous allez souvent m'entendre un peu enfoncer des portes ouvertes ou à l'inverse dire des choses qui vont vous paraître complètement farfelues, mais c'est là, les choses sont simples en fait, et chez Entourage et dans la vie. Et donc il va y avoir ce travail sur la sensibilisation de citoyens à l'importance du lien social. Ensuite, on va travailler sur la création des conditions qui vont faciliter la rencontre via des rencontres nomades en allant aller voir des gens dans la rue en discutant avec eux, via des événements qu'on appelle de convivialité, via tout un tas de choses, et ensuite de les transformer durablement. Et c'est là-dessus où cette application va regrouper toutes ces choses qu'on a mis en place, mais évidemment qu'il y a un travail qui est fait autour pour essayer de toucher les personnes qui n'ont pas de téléphone, pas de smartphone. Et tout ça passe par de l'entraide, ça passe par des structures partenaires qui vont nous aider à aller atteindre ces personnes, par des rencontres en direct que l'on fait, et voilà.
Et justement là, donc tu expliquais que vous alliez à la rencontre de différents publics via des événements, des actions qui sont mises en place, mais j'imagine que c'est pas toi personnellement qui fais toutes ces actions de rencontres. J'ai cru comprendre donc que vous collaborez avec un réseau de bénévoles à différents échelons. Est-ce que quelqu'un peut m'en dire un peu plus sur ce sujet de cet écosystème des parties prenantes, des bénévoles qui interagissent avec l'asso Entourage?
Moi, je peux en parler un petit peu. J'ai beaucoup d'humilité par rapport à tout ça parce que, encore une fois, on veut toujours donner plus. Mais en gros, voilà, il y a la structure salariée avec Guillaume et les équipes hyper actives et hyper joyeuses qui travaillent avec lui. Et puis, à côté de ça, l'idée, c'est de monter un réseau d'ambassadeurs, de bénévoles. Je crois que pouvoir le dire sous ton contrôle, Guillaume, mais que tout le monde est le bienvenu d'ailleurs pour nourrir ce réseau d'ambassadeurs. L'idée, c'est d'avoir des personnes qui vont être là de façon régulière pour justement animer la présence d'Entourage sur le territoire. En fait, Entourage, comme l'application, comme d'autres choses, c'est qu'un moyen pour que les gens puissent vivre des moments sociaux, des moments où ils vont être en interaction avec d'autres personnes, que le prétexte soit un coup de main ou une soirée jeu ou juste une information ou juste une discussion. En fait, l'idée, c'est juste de se dire bah, comment on crée les conditions de la rencontre et juste se rencontrer, bah, c'est l'arme absolue contre l'isolement, en fait, et se parler.
Oui, moi, je disais, pour les tout ce qui est bénévole et tout, bah, et pour aller au contact de ces personnes, il y a les sensibilisations, on appelle ça, sensibiliser les personnes de la rue en donnant même un café, un chocolat, un thé, mais c'est vrai que la nourriture non, puisque c'est pas notre, c'est pas la sauce qui fait ça, il y en a pour ça, et les diriger aussi, moi c'est ce que je fais, je dirige les personnes vers les endroits où c'est pour faire les papiers, pour faire, pour se nourrir, pour se laver, pour se... Voilà, tout ça. Moi, je fais tout, c'est ça. Il faut aller au contact des personnes, c'est pas facile.
Mais je pense que ce que tu dis là est hyper important, et c'est là où on a besoin de tout le monde, c'est qu'on est... et bon, je pense que c'est d'ailleurs ce qui est porté par Entourage.
Bien sûr.
En fait, c'est pas une asso qui vient apprendre à être assistante sociale ou éducateur spécialisé ou professionnel du social ou quoi, non. C'est, Entourage, elle vous apprend, non, elle vous amène à être un humain, un citoyen, et un humain, un citoyen qui vit avec d'autres humains, d'autres citoyens, quels qu'ils soient, en situation d'isolation ou non. Et pour ça, elle vous donne des clés sur certains freins que vous allez pouvoir avoir naturellement par votre timidité, par votre caractère, les peurs qu'on peut avoir, les freins. Mmh. Et en fait, ce que tu dis est hyper important, c'est que on a besoin de tout type de personnes, des gens qui connaissent extrêmement bien la rue comme elle est vécue, de personnes qui sont loin de la rue parce que ça permet de voir autre chose, de parler d'autre chose, de personnes qui sont peut-être entre les deux, et donc voilà, donc cette équipe salariée se construit ce réseau de bénévoles ambassadeurs qui va être un peu qui va aider à faire vivre ces événements et Entourage sur le territoire dans le but de justement pérenniser ce lien, et puis après Guillaume pourra peut-être parler
Moi, je veux dire, justement, comme je sais pas si je vais trop vite, mais bientôt, il y a la nuit de la solidarité. Donc, on va essayer de recenser toutes les personnes qui sont sans domicile. Déjà, on va essayer de tous les recenser pour voir un petit peu le nombre qu'il y a. Et après, selon ces personnes qu'on aura rencontrées, on va les diriger. Voilà.
Du coup, ça me permet un peu, toute cette discussion, elle me permet de ressentir sur deux choses qui font un petit peu la particularité d'Entourage et sur les personnes sur lesquelles on s'appuie. D'un côté, c'est le comité de la rue. On l'entendra d'ailleurs en chanson tout à l'heure, c'est-à-dire un comité qui est au niveau des antennes et au niveau national, qui est constitué de personnes qui ont un vécu, qui vivent ou qui ont vécu à la rue, qui ont cette expérience et qui vont nous accompagner sur des prises de décision, des idées sur des projets à mettre en place ou non. Ça va être un organe vraiment consultatif, voire parfois qui a vraiment la possibilité de mettre un veto sur des projets. Et donc, on s'appuie sur l'expérience de ces personnes-là et en même temps, on s'appuie sur ces personnes qui vont être, on en parlera aussi après, citoyens, riverains ou bénévoles. On a un peu des noms différents selon l'engagement, mais l'idée, elle est de se développer dans les territoires et c'est ce qu'on essaye de faire sur Marseille, en s'appuyant sur et cette petite équipe salariée au final qui est composée de moi en CDI et puis d'Anouk et Camille sur d'autres thématiques, sur l'inclusion et sur l'engagement citoyen, et aussi deux personnes qui vont pouvoir nous aider à déployer le projet, à animer les événements qu'on met en place, à en proposer jusqu'à ce que, et ça c'est l'idée finale, faut imaginer qu'on n'a pas un produit, on veut juste créer un changement, et dans l'idée c'est que tout le monde puisse utiliser cette application ou toutes les autres choses qu'on met en place pour elle-même aller créer du lien social quand on sensibilise, quand on invite des gens à nous rejoindre. Évidemment, il y en a qui vont s'engager de manière régulière et durable et ça va nous aider à faire certaines choses, mais l'idée, elle est que tout un chacun puisse elle-même créer cette rencontre et on le verra après, c'est très facile et c'est ce qu'on essaye de démontrer.
Ouais, ouais, c'est vraiment comment chacun est acteur, actrice de cette rencontre et vraiment de mettre l'humain au cœur de ces échanges. Et moi, j'aimerais beaucoup avoir plus de détails sur les actions et les événements que vous mettez en place, qui ont eu lieu. Je sais que toi, Paul et David, vous êtes dans l'association depuis très longtemps. Peut-être que vous avez de belles histoires à nous partager.
Bah écoutez, selon après entourage, bon il y a les rencontres de personnes, il y a des rencontres avec des jeux, il y a des pétanques, il y a comment dire ça, il y a des matchs aussi, on a été voir les matchs de foot, hein, des matchs de foot, des matchs.
Ah des matchs, oui.
Des matchs.
On prenait des cours de maths.
Voilà. On a été. En fait, c'est vrai que entourage, c'est vrai que c'est surtout. Toutes les personnes, ils sont comment dire ça, c'est les voisins, comme on dit. Hein, c'est voisins marseillais. Mmh. Ils sont. C'est vrai que voisins. Et puis après, c'est vrai qu'il y a des événements. Les événements, c'est comment dire ça. Les événements, c'est toujours important. Comme ça, les personnes sont. Ils viennent découvrir quoi. Ils viennent découvrir un peu ce que c'est. Et puis comment ça peut les aider. En même temps, c'est ça. Après, ouais. Peut-être que...
Bon, je pense que je dirais pas mieux que toi. Hein. Y a toute une diversité d'activités qui sont proposées et souvent à l'initiative des uns et des autres selon leur ce qu'ils aiment faire ou partager. Et ça, c'est vachement beau parce que ça permet de partager plein de trucs. Tu parlais d'événements plutôt sportifs ou loisirs type sport. Il y a des jeux de société, des soirées de jeux de société. Ouais. Ça peut être des moments forts. Hein. Type, on a vécu un super réveillon cette année. C'était incroyable comme moment.
Non, il y a toutes sortes d'événements qui sont mis en place. On va dire qu'on a une programmation régulière d'événements et qui s'étoffe au fur et à mesure que le projet se développe avec des rencontres nomades. Donc, on va à la rencontre de personnes à la rue simplement pour créer du lien et échanger sans distribution de quoi que ce soit. Il y a des soirées, ce qu'on appelle de convivialité, notamment des soirées de jeux de société, des événements aussi sport. Tout ça étant mis en place par nous et par nos équipes qui sont formées, donc par des bénévoles qui sont formés pour s'assurer de la mixité et de la création de liens sociaux pendant les événements. Donc là-dessus, sur ces événements que nous met en place, on a toujours des personnes, on va dire, staffées et présentes. Ensuite, il y a tout un tas d'événements ponctuels qui arrivent un peu sur opportunité. On a le réveillon chaque année, on a eu cette année la chance d'avoir un partenariat avec la Fondation OM, donc on a pu aller accompagner des gens au stade, Romain et y est pas mal allé mais pas que. On a du yoga là, qui s'arrête dans un mois ou deux, qui est gratuit et ouvert à tous. Encore une fois, les événements, je le rappelle, on l'a peut-être pas précisé, ils sont gratuits pour la plupart du temps, et ils sont ouverts à toutes et tous sans distinction. Il y a pas de. Bien sûr qu'on travaille avec différents types de publics, mais tout est accessible à tout le monde. La distinction n'est jamais faite et n'importe qui a pu aller voir ces matchs de l'OM. N'importe qui peut faire cet événement yoga ou toutes les autres choses qu'on est en train de mettre en place.
Si je peux me permettre, d'ailleurs, ce qui est vachement important, ce que tu dis, Guillaume, hein, y a pas d'étiquette posée sur les personnes qui sont là lors des événements. En fait, on vient comme on est, hein, comme le dit le slogan. Et non, mais c'est vachement important de le préciser parce que on vient pas poser des. C'est de la formation que tu évoques. Hein. Il y a certaines choses qu'on essaie de pousser, notamment de s'intéresser aux personnes, mais tout en étant en étant pudique aussi et en respectant l'autre. Et par là, on pose pas ce type de questions. Est-ce que toi t'es là parce que t'es en galère ou est-ce que t'es là parce que tu trouves ça cool ou quoi? Non. En fait, on est là pour passer un bon moment, un moment de convivialité. Et ces moments-là sont générateurs de discussions. De se connaître mieux. Parfois, on se raconte notre vie et c'est des belles rencontres. Je rebondissais sur ça parce que je pense que c'est important de montrer que c'est ouvert à tous et surtout qu'il n'y a pas d'étiquette.
Ouais, mais c'est en fait, ce qu'il faut, c'est créer des liens. Ça crée des liens avec toutes, que ce soit les soirées, les événements, quoi que ce soit, ça crée toujours des liens avec beaucoup les personnes en précarité, mais beaucoup les personnes aussi qui ne le sont pas. Donc, ça permet de. Ça permet de rassembler ces personnes.
Ouais, lien social crucial qu'on va creuser dans la deuxième partie de cette émission. Ouais. Mais juste avant, nous allons prendre une petite pause musicale. D'accord. Guillaume, est-ce que tu veux bien me présenter le titre que vous avez choisi ce soir ?
Alors après réflexion, je me suis dit que on allait faire fi de de goût particulier, parce que finalement quelque chose qui représente très très bien l'association, tout ce qu'on fait, c'est ce titre qui a fait se rejoindre Vianney. On aime ou on n'aime pas, peu importe, mais c'est quand même quelqu'un. Et Eric, l'ancien président du comité de la rue dont on parlait, qui sont retrouvés, qui ont fait une chanson. Il y a un clip qui en était issu. Et c'est quand même assez représentatif de nous, ce qu'on fait, de là où on peut emmener les personnes et de ce qui va pouvoir se créer. Elle s'appelle Debout, je crois.
Super. On écoute donc Vianney et Eric.
Vous qui passez, arrêtez et regardez. Regardez, nous sommes debout. Debout. Pas à genoux.
Vous êtes vivants, nous survivants. La vie est cruelle, pour certains si belle. On n'a rien ou si peu, mais votre cœur peut. En un simple sourire, évitez notre dernier soupir. Vous qui passez, arrêtez et regardez. Regardez-nous, nous sommes debout. Vous qui passez, arrêtez et regardez. Regardez-nous, nous sommes debout. Nous ne sommes rien, que des moins que rien. Et rien ne vaut la main tendue, tendue de bon matin. Y'a pour nous tellement d'amour caché dans un bonjour. Y'a pour nous tellement d'espoir caché dans un bonsoir. Vous qui passez, arrêtez et regardez. Regardez-nous, nous sommes debout. Vous qui passez, nous sommes debout.
Redevenus des enfants, émerveillés à chaque instant, chaque rencontre nous grandit et nous change la vie. On peut vous surprendre, on a tant à vous apprendre. On a tous des talents cachés, on veut tellement vous les montrer. Soyez aussi acteurs de notre bonheur, acteurs de la société, comme vous, à égalité. Votre cœur est la solution, prenez la bonne résolution. Avec vos bons soins, et oui, nous irons loin, très loin.
Qui passez, arrêtez et regardez. Regardez-nous, nous sommes debout. Vous qui passez, arrêtez et regardez. Regardez-nous, à jamais debout.
Bonsoir, vous êtes bien sur Radio Galère et vous écoutez La Forêt des Possibles en partenariat avec Écoforum. Ce soir, nous sommes en compagnie de l'association Entourage, en présence de Guillaume, David et Paul. Et en première partie, nous avons découvert ces trois personnes autour de la table, découvert plus en profondeur qu'est-ce que Entourage, comment fonctionne cette association qui travaille sur la lutte contre la précarité et l'exclusion sociale. Et justement, commençons par définir ce terme précarité. En 2024, Qu'est-ce que c'est la précarité? Quel distinguo on peut faire entre précarité et pauvreté? Voilà, quelques chiffres assez marquants. Je sais que tu les as préparés, Guillaume.
Ouais, parce que sur cette question, définir la précarité, je pense qu'on aurait besoin d'énormément de temps et je ne sais pas si à la fin j'arriverai avec quelque chose de précis. Par contre, aujourd'hui, on peut dire qu'il y a quand même 10% de la population en France, qui est privé matériellement ou socialement, ce qui veut dire qu'il ne va pas pouvoir couvrir, j'ai regardé ça tout à l'heure, des dépenses liées à 5 éléments au moins de la vie courante sur 13, comme on les définit. C'est notamment le chauffage, c'est notamment les vêtements, c'est notamment Internet. Donc il y a aussi toutes ces personnes, aujourd'hui on estime à 330 millions, 1000 pardon, les personnes SDF. Et quand on parle de SDF, on parle de sans domicile fixe, donc de personnes qui vont bouger entre un logement d'urgence, des amis, un peu la rue également. Mais il y a quand même un chiffre qui est assez fou, de 4 millions de personnes mal logées, si on prend toutes les caractéristiques qui sont liées à être bien chauffé, à être installé dans la durée, à avoir des conditions de décence, etc. Donc c'est vraiment, je crois que c'est 9 millions de personnes qui sont en dessous du seuil de pauvreté en France. Enfin, des chiffres qui sont vraiment...
Le mal logement, on dit.
Du mal logement. Et les chiffres aussi qu'on aime bien avancer chez Entourage, c'est tout ce qu'on utilise pour déconstruire ces préjugés, puisque notre objectif, il est de briser cette petite frontière et ces petites peurs qu'on a, soit ces craintes, soit ces idées arrêtées. Donc, par exemple, aujourd'hui, on parlait des femmes tout à l'heure, et c'est vrai qu'il y en a peu autour de nous, peu dans la communauté des gens qu'on arrive à entourer, mais beaucoup dans les personnes qui nous accompagnent et qui sont bénévoles. Donc, bon, il y a clairement un déséquilibre à changer là-dessus. Il y a 38% de femmes quand même à la rue et évidemment, on ne les voit pas.
Ouais.
On les voit pas pour tout un tas de raisons qu'on peut imaginer, parce qu'il faut se cacher, parce que c'est beaucoup plus complexe. Ça l'est d'être une femme en société actuellement, et ça l'est encore plus. Et en plus, c'est une condition entre guillemets, si je puis dire, qui crée encore plus de précarité. Ensuite, sur les petits chiffres, t'en parlais tout à l'heure, David. Oui. On a 24% des personnes à la rue qui travaillent, dont 20% en CDI. Ça, c'est des chiffres qui viennent du DRESS, qu'on pourra redonner à la suite. On s'appuie sur des études, soit que nous on a pu mener, soit qui ont été menées. Il y a quand même 20% des personnes à la rue qui sont en CDI, et seulement 14% qui mendient. Il faut se dire qu'aujourd'hui, déjà, on voit beaucoup de personnes qui mendient. Pourquoi ? Parce que ces personnes sont dans les lieux de passage. Donc on a l'impression qu'elles sont tout le temps là, parce que c'est là où on va. Mais il faut imaginer toutes ces personnes qui se cachent. Et aujourd'hui, mendier, c'est 10 euros, 15 euros à la journée. Enfin, il ne faut pas imaginer du tout que ça peut être un emploi. Et ensuite, y a, moi, je trouve un des chiffres qui est le plus parlant, en tout cas pour moi et sûrement pour vous autour de la table, c'est la relation avec l'alcool. Aujourd'hui, on estime à 19%, encore une fois, ça c'est une étude de l'Observatoire du SAMU Social de Paris, 19% les personnes SDF qui auraient une problématique de dépendance avec l'alcool, contre 21% pour la population globale, c'est-à-dire le même chiffre. Aujourd'hui, tout le monde a un problème avec l'alcool, peu importe d'où il vient. Pourquoi c'est un petit peu plus visible? Pourquoi on y fait plus attention? C'est qu'aujourd'hui, on va être à la plaine, par exemple, avoir des centaines et des centaines de personnes qui enchaînent les pintes toute l'après-midi, et ça ne pose pas de problème. On va voir une personne assise par terre, peut-être à côté de sa tante, avec une canette, et on va se dire, ah bah, il boit une canette, lui, il est alcoolique. Et ben non, on partage entre guillemets tout ce problème, et je trouve ça assez intéressant de le marquer. Ce qui fait qu'on voit ça, c'est l'image qu'on a derrière, avec le fait d'être assis en terrasse ou d'être simplement assis par terre.
Bon, c'est un peu, augmenté, c'est 25% maintenant. Donc 25%. À force, c'est vrai que plus on s'avance, plus il y en aura. Mais là, il y en a. Mais c'est vrai, comme on parlait de personnes qui travaillent et tout, c'est vrai qu'ils vivent à la rue, quoi. Je comprends pas. Je comprends pas des personnes qui travaillent, comment ils peuvent être à la rue. Je comprends pas.
Ouais, les situations de travailleurs précaires, travailleurs pauvres.
Ils n'ont pas de tort.
Moi, ça, ça m'évoque deux choses. Hein, ce que Guillaume vient de dire, c'est que on a beaucoup de préjugés sur la rue. Et heureusement qu'il y a des études et des chiffres qui permettent de les casser. Et dans les sensibilisations réalisées par Entourage, il y a toute une partie qui est autour de ces chiffres-là, justement pour donner une réalité chiffrée de la rue rationnelle, en fait, et pas émotionnelle sur justement des préjugés qu'on pourrait avoir. Et l'autre chose, c'est justement là où la formation est importante, formation dans le sens connaître des chiffres, connaître les bons réflexes, etc. C'est que en fait, quelqu'un qui est en situation d'isolation, de précarité, ça se voit pas forcément. Il y a une minorité visible, évidemment. Mais ça se voit pas forcément, et donc c'est aussi ça qu'il faut bien avoir en tête quand on interagit avec les gens. Vous savez pas à qui vous parlez, vous savez pas dans quelle galère il est, et c'est vachement important d'avoir cet esprit très très ouvert, en fait, et justement d'avoir des événements très très ouverts, et c'est l'intérêt d'Entourage, hein, quelque part, c'est des humains, des citoyens, des riverains qui se rassemblent pour justement pas se mettre dans une position qui est très bien et qui est nécessaire d'exister d'une association ou de services publics qui s'occupent de populations, mais vraiment là, dans le cadre d'Entourage, c'est des citoyens qui se rassemblent ensemble pour passer un moment et se rencontrer.
Ben justement, parce que là tu as mentionné cette formation qui est dispensée aux bénévoles, là ce que tu disais, le fait de se mettre à la même hauteur, c'est quelque chose qui est, c'est une des clés de cette formation. Est-ce que vous pourriez nous donner d'autres conseils qui peuvent être facilement activables pour les personnes qui nous écoutent?
Alors moi je vais en donner quelques-uns, et c'est ceux qu'on offre, que ce soit aux bénévoles ou à toute personne, hein, qui nous rejoint, et puis peut-être après vous deux vous pourrez en rajouter. Il y a des choses très simples comme se mettre à, quand on va parler à une personne, à la même hauteur, c'est très très important. Ne pas oublier de vous voyer. Ne pas te poser de questions personnelles, si ce n'est sauf si on est invité un petit peu à le faire, on peut partager aussi notre histoire. Ensuite, ne pas prendre les choses de manière personnelle non plus. On ne sait pas comment la discussion peut s'engager ou non. Il faut respecter ça, et surtout, il faut imaginer, ça c'est très important dans la posture, que comme nous, en fait, on est tous entre guillemets identiques face à certaines choses. Parfois on est fatigué, parfois on est de bonne humeur, parfois on est de mauvaise humeur, parfois on a envie, parfois on a de l'humour, parfois on en a moins, parfois il y a des choses qui nous font rêver, parfois il y en a d'autres qui nous énervent, et je pense de cette horizontalité qui se met aussi bien physiquement dans la posture à l'approche de ces personnes, et aussi dans la manière d'être à l'autre, c'est-à-dire d'être soi-même, et de sentir les choses, et d'emmener les discussions là où elles vont, est quelque chose de central et de vachement important, c'est-à-dire pas oublier l'autre, ne pas s'oublier soi, et agir finalement aussi de la même manière comme on agirait avec une autre personne, en faisant attention à ces choses qui peuvent évidemment brusquer, sur lesquelles il y a un petit peu de l'attention à avoir.
Ouais, c'est avoir conscience de ces différences, de la situation de l'autre, tout en étant d'humain à humain, sans avoir une forme de hiérarchie sur l'autre. C'est d'égal à égal, en prenant en compte les différences.
Et exactement, je lisais un livre qui s'appelle « Dans la ville » récemment, qu'une personne que j'aime beaucoup m'a conseillé, et qui parle à un moment du fait que la maraude en elle-même tue le principe de maraude, et quand elle parle de ça, elle parle notamment de l'équipement, de la posture de ces personnes-là. Et ce que nous on essaye de construire, c'est justement d'enlever cette étiquette, sans bien sûr évidemment parler du fait que d'autres types de maraudes apportent ce qu'elles ont apporté, mais l'uniforme aussi est quelque chose qui peut empêcher la rencontre.
Ouais, parce que du côté uniforme, oui, tu veux dire, tu parles de quoi, c'est là-bas l'uniforme, la police ou les choses
Alors, à la base, les maraudes étaient notamment faites par la police. J'ai appris ça justement dans ce bouquin. C'est un peu ordre public, santé publique. Mais je parle de l'uniforme, c'est-à-dire en tant que structure ou personne qui arrive pour proposer ou donner quelque chose, et dans la facilitation, j'ai le sentiment de la création d'un lien entre toi et moi par exemple, elle va se faire parce qu'on est assis à côté tous les deux avec nos t-shirts, notre coiffure et pas autre chose.
Non, mais tout à fait. Mais après, voilà, c'est vrai que maintenant, on les distingue plus maintenant. Bon, après, on arrive à distinguer les personnes qui font les maraudes et tout. C'est vrai, il a raison.
Moi, ça m'intéresserait d'avoir d'ailleurs ton expérience, moi, David, après de tout ça, mais ce que j'ai sur des bons réflexes qu'il faudrait avoir.
Par rapport aux personnes de la rue ?
Oui, par rapport aux personnes.
Mais écoute, tout simplement, ne pas empiéter sur sa propriété, déjà. C'est déjà une chose qu'il ne faut jamais faire. Jamais, jamais, je le déconseille. Cette chose, c'est-à-dire que tu peux parler à un SDF, bon, tu parles devant, s'il te répond, ça va, mais s'il ne te répond pas, c'est qu'il n'a pas envie d'être dérangé. Donc, en fait, le seul truc qu'il ne faut pas faire par rapport au SDF, c'est de venir s'asseoir à côté de lui et faire comme si c'était ton pote depuis 10 ans. Le mec, il va dire, t'es chez moi, là, t'es sur mon territoire, hein. J'ai pas envie. C'est un peu ça, c'est sa bulle, en fait, tu vois ce que je veux dire ? C'est sa bulle. Donc, sa bulle, après, s'il peut comprendre, s'il a besoin de communiquer, il va te dire, vous pouvez approcher, je vais pas vous manger. Et là, tu peux commencer à entamer une conversation, lui demander s'il faut qu'il t'invite, c'est simple. S'il ne t'invite pas, c'est qu'il ne veut pas te déranger, c'est qu'il est peut-être pas. Il ne se sent pas bien pour répondre, ou bien des fois. Mais c'est vrai que cette chose-là, c'est beaucoup pour ces personnes sans domicile. L'approche est un peu compliquée. Mais bon, il suffit que tu lui présentes un café ou un truc comme ça, il va venir. Une bouteille d'eau même. Rien que ça, des petites choses, quoi. Des petites choses pour des grandes choses.
Ça me permet justement d'en parler. Moi, je pense qu'il y a une chose, et notamment que j'ai pu revoir dans le site Simple comme Bonjour, où il y a toutes ces bonnes pratiques que vous pouvez aller revoir à travers des vidéos ou des choses qui sont écrites. Voilà. Nous, on n'est pas des super-héros. Non, là, je parle de nous, chacun par entourage. On n'est pas des super-héros. Notre rôle dans la société, c'est d'être des citoyens et des humains. Y a des personnes, leur rôle, c'est d'être assistant social, EDUXPE, etc., etc. Et en fait, ce rôle-là est hyper puissant. Et il ne faut pas oublier que c'est là où, quelque part, on est attendu comme un humain et pas comme autre chose. Donc, on n'est pas des super-héros. On ne vient pas sauver les gens. On n'est pas là pour aider les gens à s'en sortir. On peut contribuer à ça par justement ce lien qu'on va créer, mais en tout cas, l'intention de base, en tout cas, moi, c'est le conseil que je donne, c'est pas de sauver la personne à qui vous allez parler. Par contre, aller voir quelqu'un pour le rencontrer vraiment, s'intéresser à cette personne véritablement, engager un dialogue et puis accepter que ce dialogue s'engage pas, c'est là où vous allez, où, en tout cas moi c'est d'expérience, où vous allez avoir vraiment quelque chose qui se passe, mais quelque chose qui se passe dans les deux sens, et y a une notion de gratuité. On n'est pas obligé d'avoir un échange, je veux dire, que ça soit de nourriture, d'argent ou quoi que ce soit, pour pouvoir rentrer en contact avec l'autre. Et je pense que c'est hyper important, ça va avec ce que je viens de dire, mais en fait, ça a de la valeur de dire bonjour en regardant quelqu'un dans les yeux. Ça a de la valeur de dire à quelqu'un, écoutez, j'ai rien à vous donner, j'ai rien à vous proposer, mais voilà, je vous dis bonjour, et moi je m'appelle Paul, et vous, comment vous appelez? Et puis voilà, ça a de la valeur.
Et là-dessus, justement, j'emboîte le pas, et après je te laisserai reprendre et rediriger. Déjà, on, évidemment, sans mettre de côté et minimiser l'action de toutes les autres structures. Hein. Vraiment, ce qu'on dit, c'est que nous, on se concentre sur le lien social. Et on
qui
explique...
sont nécessaires.
Exactement, qui sont nécessaires.
Complémentaires.
Et complémentaires, évidemment. Et ça me permet juste de rebondir avec un petit chiffre aussi sur ce besoin de lien social. Aujourd'hui, il y aurait entre 80 et 90%, évidemment, des personnes exclues qui ressentiraient le rejet des passants, et 52% de ces personnes-là et des sans-abri qui vont citer le lien social comme un besoin essentiel devant potentiellement un toit ou la nourriture, sans dire qu'il y a une hiérarchie, mais il y a plus de la moitié de ces personnes-là, des personnes exclues, des personnes en précarité, qui vont mettre le besoin social comme le besoin, entre guillemets, ou l'un des besoins numéro un. Alors qu'à côté, il y a une dizaine de pourcents des citoyens qui le place comme vraiment essentiel dans leur idée. Donc on voit que là-dessus, il y a un écart et il y a un préjugé à casser, il y a un écart de réalité, mais qui se brise, et on est là pour ça.
Et ça rejoint ce que tu disais juste avant, Paul, c'est que le lien social, c'est quelque chose qui est gratuit au final. C'est du temps qu'on va donner, c'est de la considération, c'est un don de soi d'humain à humain, et c'est surtout gratuit et humain.
Mais quelque part, ce don, il est des deux côtés. Quand la personne en face de vous, elle accepte de vous donner ce temps aussi, c'est du temps qu'elle vous donne, et c'est là où en fait on est dans un échange qui est pas... J'insiste vraiment sur ça, parce que moi c'est vraiment le moteur de ce qui me fait aimer cette association, Entourage, et puis en fait juste de simplement dire bonjour à quelqu'un dans la rue, c'est que on n'est pas là pour... on offre à part du temps... On n'est pas là pour offrir grand-chose à part ce qu'on est. Et puis, on n'est pas là pour sauver l'autre. Et donc, en fait, c'est un don mutuel. Et si on comprend ça, si on le comprend déjà, nous, l'autre, à un moment donné, peut le comprendre aussi de l'autre côté et va se sentir importante aussi dans ce qu'elle va donner comme temps. Et c'est le début de quelque chose.
Je vois que l'heure tourne. On va aborder la dernière question, qui est un petit travail de prospective. C'est de s'imaginer en 2030 et Marseille a réussi sa transition écologique et sociale. Voilà. À quoi ressemble, au vaste sujet, sachant que 2030, ça va venir très vite. Voilà. À quoi ressemble Marseille en 2030, David?
Alors, Marseille, en 2030, si vraiment tout est remis à sa place, comme on dit, les personnes dans la rue qui ont retrouvé un toit, les personnes qui sont plus, qui n'aèrent pas toute leur vie dans la rue, qu'ils ont réussi à trouver un travail, qu'ils ont réussi à part ceux-là qui travaillent, je verrais qu'ils ont un toit, qu'ils ont une maison, et puis ceux-là, et toutes les personnes, même sans domicile, il n'y aurait plus personne dans la rue pour moi. Ça serait super génial, ça serait magnifique. Tout le monde aurait un chez soi, tout le monde ne ferait plus n'appellerait plus le 115 pour dire est-ce qu'il y a un hébergement le soir, est-ce qu'il y en a pas, c'est soit oui, soit non. Tu vois, c'est vrai que moi en 2030, si on arrive, si ça serait comme ça, franchement, ça serait formidable. Moi, j'aimerais que ça soit comme ça.
Que la justice sociale soit faite.
Exactement. J'adorais que la justice sociale soit faite. Ouais. Et je voudrais, franchement, c'est vrai que c'est quelque chose qui me tient beaucoup à cœur. Et moi, je serais content parce que j'aurais dit, au moins, j'ai aidé les SDF et au moins, ils s'en sont sortis. Mmh. Voilà. Mmh. Exact. C'est ce que moi, j'aurais dit.
Ok. De mon côté, alors, si on fait quelque chose de... Si j'essaye de me dire dans 5 ans quelque chose de réaliste, et je vais prendre juste... Une des milliers de choses sur lesquelles il faudrait évoluer, ce serait peut-être la législation avec Airbnb. Mm-hmm. Et peut-être cette idée. Alors, dans 5 ans, est-ce que ça serait possible de se dire que si un propriétaire met son bien sur Airbnb pendant les moments où il n'est pas occupé ou pendant une période de l'année, il doit le mettre à disposition gratuitement de personnes qui sont sans abri, par exemple?
Que de bonnes idées dans ce studio.
Oh oui, vas-y.
Non.
Et moi, de mon côté, je pense que dans 5 ans, Marseille sera toujours Marseille. Elle sera chaleureuse, elle sera engagée, elle aura un cœur gros comme ça, parce que c'est vraiment ce qu'on voit dans cette ville. J'espère dans 5 ans qu'il y aura un chemin qui sera fait vers là, c'est que justement, on prendra conscience de l'importance des réseaux humains, peut-être plus que de son confort propre. J'espère vraiment que dans 5 ans, on arrivera à réfléchir plus loin que son nez et qu'on arrivera à réfléchir en société, dans le sens extrêmement simple du terme, d'une communauté de personnes qui habitent dans la même ville, dans des situations qui vont du Roucas Blanc au 3e arrondissement, et que faut pas se flageller d'être ce qu'on est, loin de là. Dans la vie, quand on a réussi ou quand on est en galère, c'est la vie qui est comme ça. Mais en revanche, on a une part à faire dans la société et on peut agir positivement avec les autres. Et donc voilà, moi j'espère que dans 5 ans on aura pris conscience de ça.
Ben, moi, il y a une autre chose que je dis, j'espère que dans 5 ans...
Vas-y, finis ta phrase.
J'espère que dans 5 ans, ben, ils ouvriront les maisons qui sont fermées sur Marseille.
Yes.
Voilà, tout simplement pour toutes les personnes qui sont sans domicile, parce qu'il y en a beaucoup de fermées.
Ouais. Voilà. Ouais, nous allons rendre l'antenne. Juste avant cela, on avait un petit mot à passer. Si vous souhaitez rejoindre Entourage en tant que bénévole, il y aura un webinaire qui aura lieu le 9 avril.
Exactement, Béaba du lien social 9 avril à retrouver sur l'application.
C'est ça, et nous on vous partagera le lien sur nos réseaux sociaux. Et puis voilà, c'est une fin d'émission pour nous. Merci la régie, Marin, merci. Mathieu. Merci à nos invités, merci à notre formidable public.
Wow.
Et on se retrouve la semaine prochaine avec les FADA pour parler de l'épopée du climat.
Yes.
Bonne soirée.
Bonne soirée.
Merci à tous nos bénévoles aussi qu'on a oublié de citer.